Bonsoir, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine s'est exprimé hier mardi à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix Antoine Tshisekedi a abordé plusieurs sujets, notamment la pandémie de la COVID-19, le réchauffement climatique, le terrorisme en Afrique et dans le monde. Pour ce qui est de la COVID-19, il a plaidé pour le financement des économies africaines afin de se redresser dans le contexte actuel de la crise sanitaire due à cette pandémie. Concernant la RDC, le président de la République a évoqué notamment la question de la lutte contre la corruption, les violations de droits humains et la sécurité. Et à ce sujet, il a indiqué que l'état de siège instauré depuis mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi s'est réjoui de la croissance économique, la stabilité du franc congolais et la maîtrise de l'inflation. Quelle analyse faire du discours du président de la République à l'Assemblée générale de l'ONU? Nous en parlons ce soir dans cette émission avec le professeur Jean-Claude Chilumbayi, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Jean-Claude Chilumbayi, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir.
Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Maître Kambere, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Et Timothée Tshaombo, Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Soutcha, bonsoir. Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Cédric Ngueleza. L'état de siège doit être levé aujourd'hui à sa 8e prorogation, mais rien de concret sur terrain. On dirait même qu'au lieu d'être une solution au problème du Nord Kivu et de l'Ituri, celui-ci semble plutôt empirer l'état sécuritaire dans nos cités et villages. Des centaines de personnes égorgées et kidnappées chaque semaine. À quoi sert d'aller de prorogation en prorogation sans résultat palpable sur terrain? Pariel Malassa, depuis Kinshasa, nous saluons le discours qui était très motivant, non seulement sur le plan international, mais également sur le plan national. Il est normal que l'état de siège continue jusqu'à ce que la paix soit réellement rétablie dans l'est du pays. C'est ça même les buts pour lesquels il a été décrété. Et en ce qui concerne le cadre macroéconomique du pays, pas de débat à engager, car il est clair que la monnaie est stable, mais il serait mieux que l'économie des pays africains soit effectivement financée pour redresser leurs économies qui sont tombées en baisse à cause de la COVID-19 à Bounia dans la province de l'Ituri. Vous nous suivez sur la 104.9 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la RDC, président d'exercice de l'Union africaine, s'est exprimé hier mardi à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé sur plusieurs sujets et concernant la RDC, il est revenu sur les différentes réalisations depuis son accession à la tête du pays. C'est entre autres la lutte contre la corruption, les antivaleurs et les violations de droits humains. D'autres aspects sur la RDC avec vous, Pascal Masserica.
Le président de la République a appelé sur les plans économiques le retour en programme de la RDC avec le Fonds monétaire international, la croissance économique, la stabilité du franc congolais, la maîtrise de l'inflation ainsi que les accords signés entre le gouvernement congolais et des entreprises privées pour la relance de l'économie du pays. Félix Tshisekedi Tshilombo a souligné cependant que cette relance fait face à l'insécurité qui prévaut ces jours-ci dans l'est de la RDC. Il a indiqué que c'est pour mettre fin à cette gangrène qu'il a décrété l'état de siège au nord Kivu et en Ituri. Parmi les résultats de cette opération, il a énuméré la neutralisation et la reddition des miliciens, la récupération des armes et le démantèlement des réseaux des ventes des armes, la libération de plusieurs otages et la réouverture de plusieurs axes routiers. Le chef de l'État a fait remarquer que la fin de l'état de siège est conditionnée par la restauration d'une paix durable dans ces deux provinces.
S'exprimant toujours à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, mais cette fois-ci dans sa casquette de président de l'Union africaine, Félix BRICS. Tshisekedi a évoqué la récession dans laquelle plusieurs pays africains sont tombés à cause de la crise sanitaire de la COVID-19. Il a rappelé la nécessité d'une solidarité mondiale pour obtenir la relance économique des pays africains. D'autres aspects en rapport avec son action à la tête de l'Union africaine avec vous, Alain Hunga.
Le président en exercice de l'Union africaine a martelé que l'insécurité grandissante dans la région du Sahel à cause des mouvements terroristes affiliés à Daesh fragilise la stabilité des jeunes démocraties. Les exactions de ces groupes terroristes qui ont coûté la vie au président tchadien Idriss Déby Itno sont très perceptibles au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria, a-t-il précisé. Félix Antoine Tshisekedi a ajouté à cette liste le nord du Mozambique, aussi en proie à un groupe terroriste, sans oublier la région des Grands Lacs, secouée également par les groupes terroristes islamistes FDLR et ADF-MTN. Il a aussi évoqué tous les efforts qu'il a fournis pour apporter une solution pacifique à la crise entre l'Égypte et l'Éthiopie autour du barrage de la Renaissance. Félix-Antoine Tshisekedi a appelé la communauté internationale à se serrer les coudes pour mettre fin au terrorisme.
Merci Alain Hirung, professeur Jean-Claude Chilumbaï. Je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Quelle lecture vous faites du discours du chef de l'État à la 76e Assemblée générale de l'ONU hier mardi 21 septembre à partir de New York?
Oui, madame, c'est d'abord l'occasion de féliciter le chef de l'État parce que là, on a petit à petit des évidences que c'est un Congo de retour, un pays qui était effacé sur la scène internationale, qui reprend sa place de géant, sa place de commandeur et de représentant de l'Afrique. C'est précisément dans ce cadre que le chef de l'État, non seulement comme président de l'Union africaine, mais aussi comme président du pays phare de cette Afrique renaissante qu'il veut, s'est exprimé sur des grands enjeux internationaux et africains, notamment la pandémie de Covid, la lutte contre le réchauffement climatique et le terrorisme international, qui sont désormais des préoccupations de la RDC comme grand pays sur l'échiquier international dans son retour sur cette scène. Mais aussi c'est au plan interne, là nous avons assisté à un chef qui rassure, un chef qui désormais parle avec conviction et espoir de son pays, qui pose un diagnostic honnête et serein sur l'avenir de celui-ci. Et dorénavant, nous sommes en droit de penser que si nous nous serrons les coudes, le pays est plus que jamais tourné vers l'avenir. C'est plus précisément dans ces questions qui nous ont pendant longtemps tirés d'en bas, cette fameuse question de la lutte contre la corruption, parce que l'essentiel des deniers publics partait dans des caisses trouées, ce qu'on pouvait qualifier d'impôt sans le pot. Et avec cette lutte marquée, qui marque même ce grand retour de la RDC, parce que c'était devenu notre marque de fabrique, la corruption endémique, le président de la République parle cette fois-là comme un chef qui oriente l'avenir du pays, qui lui donne une nouvelle connotation, et laquelle connotation va devoir permettre à la République de se doter des moyens de renflouer ses caisses, parce qu'avec l'argent, avec suffisamment de l'argent dans les caisses de l'État, on est à même de rassurer les droits de l'homme dans leur entendement global, qu'il s'agisse des droits politiques et civiques, qu'il s'agisse des droits économiques et d'autres dimensions des droits de l'homme.
Professeur Jean-Claude Chilumbaï, puisque vous parlez de la RDC, on va y rester. Le chef de l'État, en parlant de son pays, il est revenu sur ses différentes réalisations depuis son accession à la tête du pays, notamment la lutte contre la corruption, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les antivaleurs et les violations de droits humains. Sur le plan économique, il s'est réjoui de la croissance économique, la stabilité du franc congolais, la maîtrise de l'inflation, mais une certaine opinion estime que cela ne se ressent pas dans le vécu quotidien de la population.
Non, madame. En fait, moi, je dois comprendre, les gens, ils sont asphyxiés, la population est asphyxiée. Nous venons d'une situation extrêmement difficile, et de sorte que même lorsqu'il y a des réalisations, des planifications, ça va bien évidemment traîner à se faire efficacement sentir, mais c'est ça que notre population devrait comprendre. C'est notamment le fait que l'on ne peut pas faire du social si on ne réussit pas à endiguer cette gabegie, cette pandémie que l'on appelle la corruption aujourd'hui. C'est parce que tout le monde, toutes les projections démontrent que tout l'argent de l'État partait dans les poches des individus. Et que maintenant, que le chef de l'État affirme comme commandeur de la République que l'argent est en train de retourner dans les caisses de l'État, je ne crois pas qu'il y ait trop de soucis à se faire sur le fait que cet argent qui rentre dans les caisses de l'État aura des répercussions dans le panier de la ménagère. Et je le reprends toujours ici, ça dépend aussi de ce qu'on appelle social. Le social, c'est toutes ces facilités qui conditionnent notre existence. On a désormais parlé de la gratuité de l'enseignement. Ça a permis, tant bien que mal, parce que c'est un programme en cours, aux parents d'épargner quelque chose dans leur bourse. Et désormais, là, nous voyageons à un prix raisonnable qui permet également que le pays soit effectivement réunifié, que les affaires reprennent. Il y a ce débat et ces décisions sur la baisse de prix des produits de grande consommation, qui est un projet en cours de réalisation parce que ça ne devait pas se décréter comme une machine. Maintenant, il y a des modalités de faisabilité qui sont en train d'être vues. Mais aussi, le social, il ne peut pas être séparé de la question sécuritaire. C'est là que le chef de l'État insiste sur le fait que l'état de siège devra rester parce qu'il faut que la paix soit retrouvée. C'est par la paix que la conjonction économique va devoir être une réalité. On ne va pas continuer de vivre dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et bien évidemment, le social, c'est le leitmotiv. Le chef de l'État ne l'a pas éludé. Il l'a abordé, il a donné des pistes dans son discours et des ouvertures, des moyens, des possibilités qui vont devoir nous conduire à ce Congo que tout le monde attend rêver.
Alors, le chef de l'État a énuméré les résultats positifs de sa décision sur l'état des sièges, parmi lesquels la neutralisation et la reddition des miliciens, la récupération des armes et le démantèlement des réseaux de vente des armes, libération de plusieurs otages et la réouverture de plusieurs axes routiers. Mais la population sur terrain estime que cette décision est venue empirer la situation de ces deux provinces. C'est comme l'a dit cet auditeur, Cédric Ngeleza, qui estime qu'on dirait même qu'au lieu d'être une solution au problème du Nord Kivu et de l'Ituri, l'état des sièges semble plutôt empirer la situation dans les cités et villages. Les personnes continuent d'être égorgées et kidnappées chaque semaine. Des prorogations en prorogation sont résultats palpables sur terrain.
Vous savez, madame, ça ne serait pas suffisamment honnête que de dire qu'il n'y a pas de résultats palpables. Moi, j'ai suivi les élus du Nord, Kivu et de l'Ituri, qui ont fait un bilan positif. La société civile a fait un bilan largement positif, même si nous convenons tous d'admettre que les difficultés sont encore énormes. Ce que les gens ignorent, c'est que cette partie du territoire national était une jungle, c'était un enfer. Et que les efforts qui sont en train d'être fournis vont devoir rendre les résultats au grand jour. Ça ne tardera pas à venir. Et je crois que le témoignage d'une seule personne qui mérite aussi de vivre en paix, bien évidemment, ne peut pas nous absorber et nous engloutir pour ne pas voir ce qui s'est fait en réalité sur terrain dans l'intérêt de tout le monde à ce jour ici. Je crois qu'il faut que l'on prenne un peu notre mal en patience. Ce qui n'a pas existé hier, c'est cette volonté, cette détermination d'agir pour l'intérêt de tous, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et pour cette raison-là, je ne vois pas pour quelle raison on s'est hasardé à lever l'état de siège, le chef d'État lui-même l'a dit, alors que des raisons qui avaient présidé à son décret n'ont pas disparu. Mais ceux qui veulent que l'état de siège soit levé, nous aurions voulu qu'ils nous présentent une alternative crédible qui soit beaucoup plus efficace que l'état de siège. Nous avons une situation dont Félix Tshisekedi a hérité, une situation que nous semblons tout simplement oublier. C'est vrai, avec l'engouement du changement de pouvoir, mais la réalité, c'est celle-là, c'est que le pays n'avait plus été gouverné pendant de nombreuses années. On est en train là de poser des jalons d'une société humaine qui doit réexister. Et nous devons inviter nos compatriotes à prendre suffisamment de patience parce que c'est un État en train d'être fondé.
Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, votre analyse du discours du président Félix Tshisekedi, président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine.
Merci Kelly pour nous avoir associés au débat de ce soir. Merci aussi à mon ami le professeur Jean-Claude Chilumbay et ainsi qu'à l'autre participant. Je crois que tout le monde a suivi les discours du chef de l'État, du président de la République, et nous venons malheureusement aussi de suivre le professeur qui essaie de faire l'éloge à ces discours, mais en réalité un discours qui a déçu énormément de Congolais. Parce que le terrain sur lequel on l'entendait, c'était par exemple sur le plan sécuritaire, l'état de siège, qui est toujours une décision grave que prend le président de la République pour une situation déterminée, des circonstances qui peuvent amener le pays à un chaos, mais que lorsque lui parle, comme vous venez de l'introduire là, il ne connaît pas les jours. Et cela, c'est depuis 5 mois maintenant déjà qu'il y a état de siège, que lui dit cet état de siège ne pourra être levé que le jour où les circonstances qui ont présidé à sa proclamation disparaîtront. Lorsque ces circonstances-là, on ne sait pas nous les décrire pour dire qu'on a su les réduire à quel pourcentage, par exemple. Donc, un tel discours, je suis sûr, et les gens nous appellent de partout, c'est un discours qui a déçu. Même ce qu'on a présenté dans ce discours par notre président de la République comme résultat de cet état de siège, ça, je crois que c'est quand même une déception. Mais entre-temps, lorsque Kelly, on vous dit que les routes sont réouvertes, alors que l'état de siège, lorsqu'il était proclamé, il n'y avait pas de routes fermées, et qu'aujourd'hui, tout le monde sait que, par exemple, l'accès de Bunia à Beni, ou de Beni à Bunia, et même de Beni à Butembo, il faut des convois sécurisés des militaires, et que donc, même pour voyager, cela n'était pas là avant le siège, il faut toujours attendre que les militaires vous donnent l'autorisation d'aller. Sans perspective, contrairement à ce que dit mon frère Chilumbay, qui dit que ce discours a donné des perspectives.
C'est un discours rassurant, un discours qui donne de l'espoir.
Non, justement, malheureusement, parce que nous aurions aimé, comme tout le monde l'a dit, il a fait allusion au rapport de la société civile de Beni, qui est plutôt un rapport qui accable le gouvernement, parce que même pour compter le nombre de victimes depuis mai, et ce nombre qui se soit multiplié par rapport à avant que l'état de siège, on ne peut pas dire, la société civile a fait un bilan élogé par rapport à cet état de siège.
Vous estimez donc, Maître Kambéré, qu'il faudra lever cet état de siège.
En tout cas, tout le monde l'a dit, tout le monde a dit que le chef de l'État ne voit toujours de manière positive sa propre armée, parce qu'en tant que commandant suprême de l'armée, il y a des opérations militaires qui peuvent toujours organiser à ce niveau-là des stratégies et tactiques militaires qu'on peut organiser pour neutraliser ces gens. Mais lorsqu'il y a plutôt des contradictions, en même temps que MONUSCO a une brigade d'intervention appelée à neutraliser et qu'il n'y a aucun groupe armé neutralisé, hier c'était un affrontement entre Mai Mai et FARDC, et là on nous parlait de NDF, MTN, et alors on se demande, hier c'était les Banyabusha alliés aux NDF, je crois que le chef de l'État aurait dû promettre de mettre des opérations militaires plus efficaces, et peut-être conjuguer avec les casques bleus qui sont encore là, qui peuvent le faire, pour donner encore un sourire, c'est simplement de cette façon.
Mais on a eu des opérations de grande envergure, ça n'a rien donné comme résultat positif, Maître Kambéré.
Je ne sais pas si vous les avez vus ou, parce que c'est au temps de Bauma qui a eu ça, que Bauma allait approfondir, et que toute la population se félicitait de ça. Kabila, l'ancien président de la République, qui n'avait pas besoin d'état de siège. Et donc, si nous voulons, nous, mobiliser toute la nation derrière les FARDC, alors qu'on cesse de lui produire des discours où en même temps ce sont soit des Ougandais, des Kenyans qu'on promette qu'ils vont venir, soit c'est des Américains, et quand ils repartent, on ne sait pas quand ils sont partis, mais entre-temps, cette population-là continue à être évacuée dans leur village par des groupes de terroristes, comme nous le disons.
Un mot, Maître Kambéré, sur le plan économique. Le chef de l'État s'est réjouit de la croissance économique, la stabilité du franc congolais et la maîtrise de l'inflation en RDC.
Aussi, on peut se féliciter de cette maîtrise de l'inflation. Mais tout ceci, tous ces ingrédients de la macroéconomie, en réalité, il faut que ces ingrédients de la macroéconomie puissent avoir un impact sur la microéconomie. Ça veut dire la vie de la population, l'impact, les salaires des fonctionnaires, les petits commerçants qui sont là, ceux-là qui vivent au quotidien dans leurs petites activités. Est-ce qu'il y a un impact vis-à-vis de cela? Hier, on parlait, parce qu'ici, on a parlé de la croissance économique. Je ne sais pas si c'est la production congolaise est partie de quoi jusqu'à quoi pour parler de la croissance économique. Qu'est-ce qui a prévalu dans l'économie du Congo aujourd'hui? Le chômage est aller de quel pourcentage à quel pourcentage à faveur des Congolais, on nous parlait des réserves d'échange. Alors que les réserves d'échange, certes, même lorsqu'elles augmentent, ne signifient pas nécessairement que l'impact est positif sur le vécu quotidien de la population est là.
Merci Maître Kambé, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Timothée Tshaombo Choutia, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Un mot sur le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, président de la RDC et président de l'exercice de l'Union africaine.
Oui, il faut situer, Madame Kelly, l'adresse du président de la République à trois niveaux. D'abord, au niveau international, dans son contexte systémique lié à la réalité terroriste que nous vivons. Et puis, au deuxième niveau, le président de la République a abordé sur le plan régional la question de groupes armés, parce que ça concerne le pays régional aussi, mais aussi la question du fonctionnement politique interne. Sur le plan international, le président a évoqué la question de l'élaboration d'un peu unique, un plan, une stratégie d'ensemble pour lutter contre le terrorisme. Un petit mot que je peux dire sur cette question, c'est qu'il faut faire très attention lorsqu'il faut s'associer aux pays qui ont qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que lorsqu'ils évoquent, eux, la question du terrorisme, c'est en faveur des agendas qui leur sont cachés, parce que le terrorisme, la bonne gouvernance, la corruption, etc., sont des thèmes de propagande. En réalité, ça cache, lorsqu'ils sont venus en Libye, nous avons vu, ils ont parlé de Kadhafi qui tuait sa propre communauté, mais c'était pour exploiter le pétrole. La même question en Afghanistan pour tenter d'éradiquer Al-Qaïda avec Osama Ben Laden, mais c'était pour contrer l'avancée des Russes, etc. Donc, nous devons comprendre cette question du terrorisme à ce niveau-là pour prendre avec pincette. Un deuxième élément, il est vrai que les terroristes sont là, mais sur le plan national, nous devons faire très attention lorsque nous ne savons pas contrôler nos frontières. Madame Kelly, il vous souviendra qu'entre 40 et 60 millions d'Africains sont en train de fuir l'avancée du Sahara. Ce sont des émigrés climatiques. Dans ces groupes de gens, des communautés africains qui descendent, il y a aussi des gens d'Acmi, de Moudjao, de Boko Haram qui peuvent s'infiltrer et qui s'infiltrent réellement et qui peuvent traverser nos frontières lorsqu'on sait que nous ne contrôlons pas assez nos frontières. Donc, vous comprenez qu'il revient au service de la CIRGL, pour parler de la question régionale, mais aussi de l'État congolais, de redynamiser ses services spéciaux, notamment l'armée, la police, mais aussi le service de migration.
Vous estimez donc que le président Félix Tshisekedi ne devait pas faire cet appel à la communauté internationale pour mettre fin au terrorisme qui déstabilise beaucoup des pays africains?
Non. L'appel du président de la République est un très bon appel, mais qui se situe au niveau des vœux, des souhaits. Mais alors, à ce moment-là, il faut voir de quel type, de quelle forme de terrorisme avons-nous dans notre pays. Je vous donne un cas. Au Mali, nous avions ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui était combattu par la communauté internationale. Mais contre Bachar al-Assad, la communauté internationale, l'OTAN notamment, a pris ces mêmes ACMI comme alliés contre Bachar al-Assad. Donc, lorsque nous parlons terrorisme, nous devons voir quelle forme mais le terrorisme se trouve dans notre pays pour adapter la réponse à cette question. Le même terroriste qui frappe les Européens n'est pas la même forme de terrorisme qui se frappe. Donc nous devons l'adapter au contexte qui nous concerne. Je reviens au niveau de l'état de siège. J'encourage le président de la République de le maintenir, même s'il fallait qu'il se réfère et il faudrait qu'il le fasse. Lui qui est respectueux de texte, se référer au Parlement qui, à chaque fois, lui donnera l'autorisation de prolonger. Mais pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, et depuis que l'état de siège a été décrété, on enregistre beaucoup plus de morts, beaucoup plus d'exactions, beaucoup plus de massacres? Plusieurs éléments conjuguent à cette réalité. Le premier, c'est que lorsqu'on a bloqué les deux provinces, il faut savoir que les groupes armés qui n'ont aucune ambition nationale de renverser les institutions de l'État, ces groupes armés qui sont traiseurs, ne peuvent ne ravitailler plus les pays voisins, sont en train de les financer. Ce qui fait qu'on a la pénurie de l'or, notamment du coltan, dans ce pays voisin. Et que donc, ils ont réactivé les groupes, les unités spéciales qui sont dans le Kivu et dans l'Ituri, afin de continuer à massacrer les populations parce qu'ils n'ont plus accès à ce minerai. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il y a de la complicité au sein des FARDC. Il faut le dire, il y a une complicité au sein des FARDC parce qu'à chaque mouvement de nos troupes, les IDF, ces terroristes, tournent et arrivent à endeuiller la population. Un dernier élément très important, Madame Kelly, l'État congolais ne contrôle pas sa communication en perfection. Nous avons des serveurs, les centraux de nos communications se trouvent au Rwanda. Lorsque quelqu'un contrôle votre communication, il contrôle votre sécurité. Si nous voulons mettre fin à la situation du Kivu, nous devons contrôler non seulement la police, l'armée, les services spéciaux, mais aussi notre propre communication.
Merci Timothée. Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler pour donner aussi leur point de vue par rapport au thème de ce soir. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Mbandaka. Pour vous, professeur Jean-Claude Chilumbay.
Maître Edmond Bokolo, Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les discours du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, est salutaire. Néanmoins, la situation du pays semble afficher un panneau sombre qui contredit sans atermoiement les allégations du chef de l'État. En effet, depuis l'instauration de l'état de siège, les résultats semblent nullement être positifs, en dépit de multiples prorogations, car jusqu'alors, nous assistons à des tueries à répétition dans les parties bénéficiaires du dit état de siège. Aussi, la situation macroéconomique est totalement déchirée, où le gouvernement n'arrive pas à maîtriser la fluctuation des taux d'échange qui a permis à ce que le franc congolais puisse perdre sa valeur face au dollar américain. Dans le même ordre d'idées, la situation des droits humains n'est pas améliorée, car chaque jour, nous assistons à des cas de violation des droits humains par les services de sécurité et la police nationale congolaise. Au demeurant, il est temps que le président de la République, qui doit rendre compte de la gestion du pays en 2023, puisse se rattraper à renforcer des mécanismes pour lutter contre la corruption en toutes ses variantes, éradiquer la violation des droits humains et hausser la vie sociale de la population qui continue à croupir dans une misère comparable à un enfer éternel.
Professeur Chilumbay.
Oui, j'ai suivi Maître Edmond. C'est très intéressant ce qu'il pose comme problème, mais je pense que le diagnostic n'est pas vrai, n'est pas totalement vrai. Si je suis d'accord avec lui que notre population souffre, a des difficultés, bien évidemment qui ne sont pas d'aujourd'hui, si je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a encore ça et là de dénonciation de violation des droits de l'homme, ça c'est une évidence. Si je suis d'accord avec lui que le taux d'échange, notamment, tangue de temps en temps, c'est une évidence. Si je suis d'accord avec lui que l'état de siège n'a pas encore totalement rendu compte de son avantage, c'est des faits. Mais en réalité, je voudrais que Maître Edmond lise exactement avec sincérité le tableau de tout ce qu'il est en train de décrire aujourd'hui. Le taux d'échange, la situation de l'inflation monétaire que nous avons aujourd'hui, c'est une situation léguée au départ du Premier ministre Matata en 2016 qui est en train de se perpétrer et que nous sommes en train de faire le nécessaire pour endiguer. D'ailleurs, lorsqu'il parle du cadre macroéconomique, il faut en désigner les indicateurs majeurs pour dire si ces indicateurs ne sont pas tous stables pour parler de l'instabilité générale du cadre macroéconomique. Moi, je sais qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Lorsqu'il parle de l'instabilité monétaire, le taux de change est plus ou moins stable. Et la réalisation de matelas moelleux à la banque centrale en termes de réserve de change, c'est aussi une évidence qui va permettre à ce que ce taux de change se stabilise davantage et que notre balance commerciale soit aussi stable. Mais lorsqu'il parle de l'état de siège et de tuerie, moi je crois que les gens oublient un peu vite, avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, Beni, c'était une poudrière, non seulement des tueries au quotidien en pleine ville, mais aussi
de la maladie à fièvre Ebola, qui est des choses que les gens ont oubliées, qui ont pris du temps et des moyens nécessaires au gouvernement et à la gouvernance, c'est ce qu'elle dit, et pour qu'on arrive là où nous sommes. Mais à ce jour, c'est au fur et à mesure que ces bandits sont traqués dans certains endroits de leur concentration qui se dispersent, c'est des faits en train d'être bien évidemment maîtrisés. Pour dire que le panneau n'est pas aussi sombre qu'il l'imagine, parce que lorsqu'on parle des retombées de la stabilité ou de l'embellie financière, Maître Kambere ne note notamment le fait que il y a des gens, de nouvelles unités dans ce pays qui ont fait 25 ans, par cinquantaine de milliers qui ont été payés pendant qu'ils réclament l'augmentation de salaire, ce qui a été fait d'ailleurs dans beaucoup de secteurs comme l'enseignement primaire et tant d'autres secteurs, même si ça n'a pas été significatif, il a été prouvé que la volonté est là, elle est réelle d'avancer vers cela. Mais pour y parvenir, j'ai insisté qu'il faut avoir de l'argent. Et lorsque Maître Kambere répond à la question de ce qui a été fait pour que l'économie se stabilise, d'abord j'ai noté ici la lutte contre la corruption, l'argent du pays était dans les poches des individus. Vous avez suivi que pendant une période donnée, les détournements se mesuraient à la hauteur de 50, de 200 millions, de 300 millions de dollars, et qu'aujourd'hui, la lutte acharnée contre ce phénomène permettra à coup sûr que l'argent revienne au trésor, et avec ça, comme la volonté, elle est réelle, elle est résolue, elle est affichée, ça va être distribué à notre ou à nos compatriotes, à notre population, selon les catégories, selon le travail que chacun rend pour la société.
Merci.
Et pour Timothée, c'est vrai, les types de terrorisme, je crois que nous sommes en train d'en combiner presque tous à ce niveau où dans l'est du pays, on a assisté aux explosions des armes, à la pose des bombes et à tant d'autres types de terrorisme. Le président de la République n'a pas, bien évidemment, eu tort de faire appel au concours de la communauté internationale parce que le terrorisme lui-même, en effet, c'est un phénomène transnational. Il est évident que nous saurons le combattre sans associer nos voisins et même parfois nos partenaires lointains. C'est de cette façon-là que le chef d'État a fait cet appel. La complicité au sein des FARDC, elle est une réalité lointaine qui date du phénomène de brassage. Et si aujourd'hui, le chef de l'État est en train de mettre l'accent sur la formation des militaires, des officiers militaires, des hommes, des troupes, c'est pour bien évidemment les doter du civisme nécessaire afin qu'ils se concentrent sur la défense de la nation.
Maître Ferdinand Kambere, vous allez réagir à cette réaction qui nous vient du Kasaï central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï central, se trouvant dans la ville de Kananga. Nous saluons les discours du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU et surtout les problématiques abordées par lui. Cependant, nous constatons que les Africains en général et les Congolais en particulier pensent que l'heure est encore à la politique paternaliste. Mais nous relevons que les solutions aux problèmes des Africains et des Congolais ne trouveront des solutions qu'entre les Congolais eux-mêmes ou les Africains eux-mêmes. Parce que dans le rapport de la situation de la RDC, jusque-là, rien n'a changé. Chaque jour qui passe, on dénonce le détournement des fonds et des fonds de partenaires. Le total du peuple est resté statique depuis la chef de l'État à la tête du pays. Donc tout cela fait que les Congolais doivent compter sur leurs minéraux, compter sur leurs ressources pour relever les défis. Et sinon, on attendra encore la manne qui ne tombera pas d'ailleurs, et on attendra beaucoup l'Afrique en général et le Congo en particulier seront toujours avec la politique de main tendue.
Brève réaction, Maître Kambere.
Oui, c'est que tout le monde a compris que Maître Mampouya qui parle dit au Kananga, au Kasaï central, est donc un électeur de mon ami le professeur Chilumbay, qui développe un discours contraire que ce que lui est en train de dire. Parce que sur le plan de la lutte contre la corruption, il relève bien que on continue à parler des détournements chaque jour qui passe et que rien ne s'est fait. Donc on ne peut pas nous parler de la lutte contre la corruption lorsque jusque-là, tout ce à quoi on a assisté, c'est une justice aux ordres. On arrête que les adversaires politiques, mais ceux-là qui gèrent aujourd'hui ne sont jamais arrêtés. En tout cas, c'est quelqu'un des électeurs de mon frère Chilumbay qui le dit et qui l'affirme, et il n'est pas le seul, c'est un constat.
je le disais encore, je salue notre frère Timothée qui est intervenu aussi ici pour faire remarquer en fait une chose. L'état de siège, on peut en parler, on peut dire on ne sait pas que ça va se terminer. Mais il faut toujours savoir qu'est-ce qui est à la base de l'instabilité à l'Est, parce qu'on en parle et on continuera à en parler tant qu'il n'y aura pas la paix. Il faut d'abord savoir que c'est une guerre économique et que les pays voisins et les puissances lorgnent sur nos richesses. Mais aussi les pays voisins, apparemment, qui ont cette intention d'étendre leur territoire dans expansionnisme ou pour ce que tout le monde appelle les trompes du Rwanda, on cherche une nouvelle terre pour que ces gens habitent. Avant de dire que les circonstances qui ont prévalu pour proclamer l'état de siège, dès que ça cessera, c'est le jour où va cesser, où on va lever l'état de siège. Est-ce qu'on a réussi, comme l'a relevé notre frère Timothée, à faire que cette guerre ne soit plus une guerre réellement économique? Nos minéraux ne sont pas en train d'être fraudés, trafiqués, toujours vers les mêmes frontières, vers les mêmes pays qui nous agressent tous les jours et qui ont sous-traité sous cette guerre-là aux groupes armés qui sont là, qui équiment la partie. Donc c'est à cela que nous avions dit que c'était un discours qui n'a pas apporté d'espoir à ce peuple qui est en train plutôt de voir le noir, un avenir sombre, un avenir plutôt qui est en train d'être prometteur à tous ceux-là qui ont toujours dit qu'ils vont balkaniser le pays.
Merci.
Pour le chef de l'État d'appeler à l'unité nationale pour que les gens finissent derrière les FARDC et qu'on cesse de nous flatter avec des armées qu'on récriterait d'autres pays étrangers.
Merci, Maître Kambéré. Timothée Tchomba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Timothée Moindo Mukomulere depuis Goma. Nous saluons le discours du président de la République, surtout à la question liée à la sécurité à l'Est. Panda ignorait que ce complot était un complot international et une guerre d'occupation est une hypocrisie de haut niveau. L'état de siège ne servira à rien si nous n'agissons pas sur le plan diplomatique et sur le plan local en cherchant les complices qui sont dans notre armée et au sein de notre population locale, et lancer un appel à la population à une autoprise à charge et une légitime défense qui est reconnue et garantie par les lois et la constitution de notre pays.
Timothée Tchaombo, qu'est-ce que vous pensez de son point de vue?
Oui, je salue mon homonyme et que son observation est exacte. Première des choses, le président Tshisekedi a trouvé environ 150 groupes armés nationaux et ou étrangers. Donc c'est pas une question qu'il pourra terminer pour son mandat ici. Mais nous ne lui demandons pas d'opérer de miracles. C'est pas un dessein. Il doit prendre des décisions et des réformes. Première décision, il a su chaque option diplomatique. Et mon frère de Goma l'a très bien dit. Lorsqu'on se trouve à la tête de la diplomatie, il est le patron de la diplomatie. Il doit mettre sur la table le fait que, bon, vous voulez ceci pour notre pays, mais nous voulons en retour cela. Par exemple, condamner ostensiblement le pays faire de base arrière pour ses groupes armés, et cela est établi. Deuxième chose, nous vivons de plein pied dans la deuxième guerre froide liée à la transition énergétique sur cette question de minerais. Et que donc 80% des minerais se trouvent en Afrique centrale, notamment en RDC. Ces guerres-là sont justifiées par cette situation aussi. Et qu'aujourd'hui, même lorsque vous voyez les Américains quitter Afghanistan, parce que Afghanistan, ce n'est plus international. L'enjeu international, c'est le minerai qui rentre dans la nouvelle technologie. Donc, aujourd'hui, le discours de dirigeants africains, c'est de savoir qui est, définir, avoir une capacité managériale pour négocier quel type de coopération nous allons opter. Est-ce qu'une coopération bilatérale? Moi, je propose une coopération multilatérale. En même temps, poser des questions, amener la question sur les instances internationales, notamment les Nations Unies, mais aussi la Cour pénale internationale, la Cour internationale des droits de l'homme, pour traduire en justice les pays qui ont ratifié les traités internationaux liés à la non-agression d'État, au respect des droits humains, etc. parce que ça ne sert à rien d'avoir des coopérations avec des pays belliqueux qui ont des troupes armées chez nous. J'ai toujours donné cet exemple. Lorsque vous allez à Kigali, il n'y a aucune mine d'or et de coltan. Tous les groupes armés qui sont RDC servent aussi les Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et que donc, ça ne sert à rien. Je n'ai jamais vu l'Espagne d'Angela Merkel commencer à avoir des relations avec Israël sans passer par de vérité et réconciliation. Tout accord que nous allons signer avec ce pays voisin, lorsque nous n'allons pas par des bases solides, nous allons retourner à la même situation.
La réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps et il faudra conclure près de 3 ans que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est à la tête de la RDC. Timothée, est-ce que vous pensez que les pays est en train d'aller dans la bonne direction ou c'est les statu quo?
Le président de la République a une très très bonne volonté, il a une volonté manifeste, mais qui doit s'accompagner par des réformes radicales. Voilà, par exemple, aujourd'hui nous avons l'IGF pour traquer les corrompus et les corrupteurs, mais nous assistons, vis-à-vis de Kinshasa, à des nouveaux riches qu'il faut aussi traquer. Et il faut encourager donc dans la production. Nous avons une stabilité monétaire, mais la RDC ne produit pas de produits agricoles. Je vois le service national qui commence à offrir les premiers produits sur le marché. Il faut intensifier cela, le confier par exemple, Bukarelozo, on peut confier au service national de l'armée et produire ce plan national, lancer un programme national de production pour que nous puissions, sur le plan agricole, non seulement produire pour nous-mêmes, exporter, mais sur le plan minier, pourquoi pas ne pas imposer à toutes ces multinationales pour 1 kilo de coltan, pour 1 kilo de cobalt, qui est pour une seule batterie, qu'on ait 1 dollar pour la RDC. Nous avons des milliards de dollars. Voilà.
Merci Timothée Tshaombo. Je rappelle que vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Professeur Jean-Claude Tshilumbay, en 30 secondes, pensez-vous que le pays est sur la bonne voie?
Oui, avec une diplomatie aussi précise, une diplomatie suffisamment avisée, les groupes armés sont en train d'être défaits parce que les tireurs de ficelles ont été démotivés, dissuadés par cette diplomatie extrêmement agissante. Les rapports internationaux en matière de droits de l'homme sur la RDC ont successivement donné positif pour démontrer que les choses se sont suffisamment améliorées et que la question précise de minerai, le président de la République a posé des jalons, décidé de réviser des contrats mafieux qui nous avaient été légués pour que le Congolais sente les retombées de ce que son sol génère. Quant à l'état de siège, il y a des pays dans ce monde qui ont vécu sous l'état de siège pendant 20 ans, pendant 30 ans. Moi, je ne crois pas que le problème ne soit pas celui de l'état de siège, mais plutôt des accommodations nécessaires pour qu'en même temps, nos populations ne sentent pas trop de poids de cet état de siège, notamment en termes de restrictions de leur liberté. Ce dont ils ont besoin à ce moment, c'est de circuler librement, de vaguer à des occupations, mais aussi de vivre en sécurité.
Merci.
Il n'y a aucune urgence à ce jour que l'état d'urgence et l'état de siège soient levés parce que les politiciens l'exigent, mais bien évidemment parce que nous aurons retrouvé la paix, l'état de siège devra rester jusqu'à ce que la paix soit restée.
Merci professeur Jean-Claude Tshilumbay. Maître Ferdinand Kambere, votre conclusion.
Sans stabilité politique, madame, sans stabilité des institutions, rien d'autre ne peut marcher. Et que donc, là où on est en train de mener le pays, c'est vers le gouffre. Imaginez que dans tout ce qu'on a débattu, le processus électoral lui-même pour 2023 est bloqué, tout simplement par la volonté de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas en train de croire à ce qu'on appelle les diplomaties agissantes qui agit à faveur de l'Est, parce que les pays qui nous agressent, qui sont dénoncés par tout le monde, sont plutôt les pays chers à ces régimes. Alors que cet état de siège a des effets négatifs et sur la population et sur l'économie de notre pays.
Merci Maître Kambere. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Michel Outeté, Donna Madimba sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.